RCF. Bonjour à toutes et à tous. Il est de ces esprits rares dont la curiosité insatiable ne saurait se satisfaire de réponses triviales. Franck, savant des océans et des mystères qu'il recèle, est un homme d'une constance admirable, travaillant sans relâche à percer les secrets du monde du vivant. Il n'est point de marée qui puisse ébranler sa résolution, ni de tempête capable de détourner son regard de l'horizon. Dans son laboratoire, où les flacons, les microscopes s'alignent comme les soldats d'une armée de la connaissance, Franck scrute les hémoglobines marines avec une patience de bénédictin. C'est ainsi qu'est née Emarina, une entreprise innovante dédiée à l'exploitation des propriétés extraordinaires de l'hémoglobine de ver marin pour des applications médicales. Il a cette modestie propre au véritable génie, celui qui sait beaucoup se rend compte de l'étendue de ce qu'il ignore encore. Ainsi, bien qu'il ait déjà emporté maintes découvertes à la lumière du jour, dont la fondation Emarina, il n'en tire aucune gloire personnelle, mais s'en remet toujours à la quête collective de la science. On le voit souvent perdu dans ses pensées, dit-on, errant parmi les rayons d'une bibliothèque, songeant peut-être aux créatures abyssales qui peuplent ses rêves et ses travaux. Mais ne vous y trompez pas, derrière ce calme apparent se cache une volonté de faire, une passion brûlante pour le progrès, l'innovation. Emarina, fruit de son génie, témoigne de sa capacité à transformer des concepts novateurs en réalité tangible au service de la médecine et du bien-être humain. Quand il parle de ses travaux, ses yeux s'illuminent d'une lueur toute particulière, celle de celui qui a touché du doigt les arcanes de la nature. Son discours est clair, précis, captive son auditoire, il parcourt le monde, révélant non seulement un esprit brillant, mais aussi un éducateur né capable de transmettre son savoir avec une simplicité désarmante. Et quand on recherche à lever des fonds, c'est nécessaire. Franck est de ces hommes pour qui la science n'est pas seulement un métier, mais une vocation, un appel irrésistible auquel il répond chaque jour avec une ferveur intacte. En lui se conjuguent la rigueur du chercheur, l'âme du poète, l'âme de l'entrepreneur, car il sait que chaque découverte est une fenêtre ouverte sur l'infini. Et Marina, emblème de son parcours scientifique, n'est que le commencement d'une œuvre dédiée à repousser les frontières du possible. Bienvenue dans l'écho des solutions. Bienvenue Franck Zahl.
Bonjour, merci à vous.
L'écho des solutions, Patrick Longchamp.
Voilà, bonjour à toutes et à tous. Très très heureux de vous retrouver dans l'écho des solutions pour un nouveau visage d'entrepreneur. Cette semaine, eh bien, je vous emmène à la rencontre de Franck Zahl. Vous en avez eu son portrait. Franck Zahl, on va avec vous essayer de comprendre votre parcours. Vous êtes scientifique, vous êtes aujourd'hui un entrepreneur et un entrepreneur scientifique. Vous faites partie de cette catégorie de ce que l'on appelle les biotech. On les a découvertes un peu plus peut-être pendant la période du Covid parce qu'elles ont été certaines en pointe, d'autres moins. On va découvrir avec vous votre portrait et puis vous nous expliquerez pourquoi à la fin de cette émission vous avez souhaité que nous interviewions Nolwenn Febvre qui a créé une association qu'on connaît bien d'ailleurs ici aussi dans l'écho des solutions qui s'appelle Les petits doudous. Mais avant tout, Franck Zahl, j'ai envie de vous poser la question suivante que je pose à tous mes invités en début d'émission. Dans quel état d'esprit êtes-vous ?
Alors, je suis dans un état d'esprit un peu... Donc déjà, je reviens de loin, là, puisque je reviens d'un voyage extrêmement loin. J'ai parcouru, en fait, l'Inde d'est en ouest, de nord au sud, et puis en passant par la Thaïlande. Donc, je suis un peu fatigué, en tout cas.
Vous êtes jet-lagué, comme on dit ?
Jet-lagué, comme on dit, mais avec toujours la passion et le rythme, en fait, voilà, qui est mon moteur. Aujourd'hui, en fait, je suis toujours passionné comme au premier jour. J'ai très envie d'avancer, j'ai très envie d'amener cette technologie vers les patients. Mon moteur essentiel, ça a été vraiment, en fait, c'est vraiment de sauver des gens. Donc quand on a ça en fait dans le corps et dans l'âme, en fait on n'est pas fatigué quoi.
Alors j'ai l'impression que ce portrait vous voit bien d'ailleurs. En parlant de ce portrait, je le dis toujours à l'issue de ce portrait, j'ai rentré votre nom finalement dans ChatGPT, dans l'intelligence artificielle, et je lui ai dit écoute, peux-tu me faire le portrait de Franck Zahl en y mettant un ton un peu à la manière des caractères de La Bruyère, parce que j'aime bien le style de La Bruyère. Qu'est-ce que vous en pensez de ce portrait? Est-ce qu'il y aurait des choses qu'il faudrait enlever, des choses qu'il faudrait ajouter?
Non, sincèrement, je pense que l'IA fonctionne pas mal, donc elle a trouvé pas mal d'informations sur les réseaux sociaux et puis sur internet, sur Google, etc. Non, je pense que ça me caractérise bien en fait. Ouais. C'est vraiment en fait un portrait qui me va bien.
L'IA chez Marina, ça va être quelque chose d'important aujourd'hui. On est obligé d'y passer. On en reparlera très certainement au cours de cette émission, mais on va être obligé d'y passer à l'intelligence artificielle.
Alors aujourd'hui, oui, l'IA sert beaucoup en fait, notamment pour faire des essais cliniques virtuels. Puisqu'il y a énormément de données qui existent en fait dans les hôpitaux, donc au lieu d'utiliser par exemple des animaux qui à chaque fois me quand on me dit tu dois faire une injection sur un singe, je me dis mais pourquoi faut utiliser un singe pour faire ce type de manip. Donc ça va pouvoir permettre d'aller plus vite et surtout de sauver des êtres vivants. Et donc moi je vois l'IA dans ce cadre là.
On va évoquer aussi cette solution médicale que vous proposez, vous qui êtes à la base un biologiste, un chercheur avant d'être un médecin. Vous n'êtes pas médecin, mais en tout cas, vous travaillez dans le monde médical, deux mondes un peu opposés l'un à l'autre et que vous avez découvert. Je vous propose qu'on commence donc tout de suite cette première séquence. Très souvent sur le bureau, il y a des photos et je pose toujours cette question. Quelle est la photo que... Et vous avez voyagé, vous avez parcouru le monde, des photos, vous avez dû en prendre, vous avez pu en prendre. Quelle est la photo qui n'existe pas, qui pourra peut-être ne jamais exister, mais que vous aimeriez avoir sur votre bureau ou accrocher au mur, Franck Zahle?
Alors là, on est vraiment dans une salle de réunion, pas dans mon bureau, mais vous voyez, mon bureau, c'est vraiment des tas de documents un peu posés partout. Donc moi, ce que j'aimerais bien, en fait, donc la photo qui n'existe pas, mais qui a existé à un moment donné, c'est ma rencontre avec le commandant Cousteau.
Ouais,
donc j'aurais bien aimé que ceci, en fait, soit inscrit sur une photo de type argentique au démarrage. Mmh. Mais voilà, donc cette photo n'existe pas, mais j'aurais bien voulu l'avoir sur mon bureau. Aujourd'hui, les photos qui sont dans mon bureau, c'est principalement des personnes décédées qui m'ont aidé sur mon chemin. Donc ils sont derrière moi, en fait ils sont derrière moi, ils sont sur un tableau, ils me regardent et à chaque fois je me dis en fait donnez-moi un coup de pouce, vous êtes là-haut, donc si vous pouvez me donner un coup de pouce, essayez de me donner un coup de pouce. Donc en fait j'ai beaucoup de reconnaissance sur ces trois photos qui sont sur mon bureau, c'est des personnes qui m'ont beaucoup aidé sur mon parcours.
Allez, on commence tout de suite notre première séquence avec notre invité Eco. On va évoquer bien évidemment la société Emarina avec vous, Franck Zahle.
L'invité Eco, Patrick Longchamp.
Franck Zahle, on reviendra sur le parcours et la création de votre société, mais peut-être rappeler en quelques mots, Franck, Emarina, c'est le fruit à la base de vos travaux de recherche, mais aussi de l'observation des vers marins et de cette réflexion que vous avez posée. Comment font-ils pour respirer à marée basse et en sortir une solution médicale liée justement à cette hémoglobine des vers marins aujourd'hui développée par exemple pour la protection des greffons, puisque plus le greffon est baigné dans un liquide chargé en oxygène, moins il se détériore, moins la température est basse, moins il se nécrose. Et aujourd'hui, vous avez permis une solution gagnant-gagnant puisque la qualité des greffons et de la prise de greffe est plus rapide et meilleure. Et puis évidemment, les temps d'hospitalisation sont plus courts. Donc tout ça, c'est gagnant-gagnant pour la sécurité sociale. Ma première question que j'aimerais vous poser, Franck Zahle, c'est comment ça se passe pour vous? Comment se porte Emarina aujourd'hui, en ce jour où nous enregistrons?
Alors Emarina se porte extrêmement bien, donc avec des demandes de plus en plus nombreuses, en fait, dans tous les pays du monde. J'ai l'impression que cette technologie aujourd'hui a complètement diffusé comme une tache d'huile, en fait, où en fait on est sollicité un peu dans tous les pays. Donc aujourd'hui, en fait, elle se passe bien. Donc, au niveau du capital, ça va. Aujourd'hui, ça pourrait aller encore plus vite si en fait les processus réglementaires pouvaient aller encore plus vite. Mais voilà, Emarina se porte bien, on avance et cette technologie est de plus en plus reconnue dans le monde entier.
Alors, je ne l'ai pas dit au début de cette émission, vous êtes aussi l'auteur d'un livre aux éditions des Arènes qui s'appelle un trésor sous le sable et vous évoquez justement tout votre parcours et les trois derniers chapitres sont consacrés à cette réglementation, à cette normativité, à cette complexité de remplir des dossiers. Pour juste avoir un petit label CE qui permette ensuite de commercialiser. On en est où aujourd'hui très concrètement? Est-ce que vos solutions sont utilisées partout? On voit bien que la première marche, c'est HemoDeLife, c'est ce qui va permettre justement la protection des greffons. Où en sont les deux autres étapes?
Alors, en fait, c'est la commercialisation. Vous savez, en France, quand on commence un truc, on n'a jamais fini. Donc c'est pas parce qu'on a eu une autorisation qu'on peut commercialiser d'une façon sereine. Ensuite, en fait, en France, il y a des études qui doivent être faites pour calculer le prix de remboursement. Aujourd'hui, en fait, on a montré que cette solution permettait en fait de sauver des vies. On a montré que le taux de survie à 4 ans en utilisant cette solution était de 98,3 de taux de survie à 4 ans contre 85 sans la technologie. Maintenant, il faut chiffrer tout ça. Combien ça coûte d'avoir 13 points de survie en plus? Donc, on est là en train de se poser la question du prix de remboursement de ce produit. Ensuite, ce produit aujourd'hui est de plus en plus sollicité dans différents pays. Donc, on parle du marquage CE, mais en fait, on a d'autres autorisations qui sont en train d'arriver dans d'autres pays. Juste pour l'info, on vient d'avoir une autorisation pour l'Arabie Saoudite. Donc, on va aussi maintenant en fait pouvoir commercialiser ces produits en Arabie Saoudite. Et j'attends incessamment sous peu des autorisations pour l'Inde, la Thaïlande, etc. Donc, en fait, ça échappe complètement maintenant au monde, en fait, à la France, à l'Europe, etc.
Ça veut dire qu'il faut que vous alliez dans chaque pays négocier avec les autorités de santé.
C'est beaucoup plus pragmatique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, on dépose des dossiers. Quand vous mettez des années en Europe, là-bas, c'est quelques mois. Et je peux vous dire que c'est pas moins bien analysé. C'est qu'il y a une très forte envie, en fait, de développer ces produits pour les sociétés. J'ai l'impression que dans nos sociétés, on n'a plus faim, on n'a plus envie. Et donc, ça prend du temps.
Je me souviens d'un de vos confrères en biotechnologie qui développait un vaccin contre la Covid-19 à Nantes, qui avait fait la une des médias. On sait combien quand on fait la une des médias, vous nous raconterez peut-être ça tout à l'heure, mais combien quand on fait la une des médias, il faut aussi arriver à des fois déminer cette emprise médiatique qui a vendu d'abord à l'Angleterre avant la France, et la vice-présidente de la région avait répondu oui, mais en France on propose des dossiers alors que en Angleterre, on propose des devis et c'est beaucoup plus simple. En fait.
Moi, je le dirais d'une autre façon, mais c'est exactement, et je connais bien Franck Grimaud que vous citez en fait dans ces quelques mots. Aujourd'hui, en fait, il y a deux mondes. Il y a le monde du pragmatisme et le monde du dogmatisme. En France, on vit dans un monde de dogme. En fait, que dans d'autres pays, en fait, c'est du pragmatisme. En fait, le dogmatisme n'a jamais sauvé des vies. Le pragmatisme, c'est essayer de tenter de sauver des vies. Aujourd'hui, en fait, on est dans un monde qui ne veut plus avancer. En fait, on est dans un monde où le principe de précaution a apeuré tout le monde. Et aujourd'hui, ce principe de précaution tétanise, en fait, le monde administratif, le monde politique. Et aujourd'hui, on peut plus vivre dans un monde comme ça. Juste pour la petite histoire, je suis passé il y a quelques temps devant le Conseil constitutionnel. Ils vendaient des goodies. Ils vendaient des parapluies avec marqué « principe de précaution ». Donc, vous imaginez, en fait, au Conseil constitutionnel, on vend des parapluies
oui,
marqués « principe de précaution ».
C'est inscrit dans la Constitution depuis 2005, hein, ce principe de...
Principe de précaution a été inscrit dans la Constitution à la suite, en fait, des échouages de pétroliers sur les côtes bretonnes, notamment. C'était un principe qui était intéressant pour l'écologie, pour ce genre de choses. Mais mettre du principe de précaution partout dans le domaine de la santé, ça n'a aucun sens. On devrait mettre... Parce que ce principe de précaution est devenu la précaution par principe. Donc, c'est mieux de rien faire, comme ça on ne prend pas de risque. Sauf qu'il faudrait inscrire dans la Constitution le principe d'innovation responsable, mais pas de principe de précaution pour ce genre d'innovation.
Aujourd'hui, on en avait parlé il y a quelques temps, le principe d'industrialisation, de production à grande échelle de vos solutions, des mots de life, et on l'espèce des mots carrière d'ici quelques instants, qui se veut être un transporteur d'oxygène, et pas, hein, si j'ai bien compris le bouquin,
c'est ça.
Un substitut sanguin, mais bien un transporteur d'oxygène pour permettre d'oxygéniser le corps et le cerveau pour lui donner de la force et de vitalité en attendant justement les poches de sang. L'industrialisation, parce que tout part en fait de ces vers marins et de cette exploitation d'hémoglobine de vers marins.
Ouais, tout à fait. Donc en fait, au démarrage, bien évidemment, c'était des vers qu'on allait chercher sur la plage. C'est comme ça que ça a commencé quand j'étais au CNRS à la station de Roscoff. Bien évidemment, aujourd'hui, on ne défaune plus aucune plage de Bretagne ou d'ailleurs, et on produit ces vers en aquaculture. Donc tout commence par de la production de vers marins dans des conditions complètement tracées et contrôlées à Noirmoutier dans une ferme aquacole. Ensuite, on a les vers, mais il faut extraire ces molécules. Donc on a développé tout un process d'industrialisation à grande échelle. Bien évidemment, on ne prend plus l'hémoglobine vers par vers. Et aujourd'hui, c'est fait à Tours. Donc à Tours et deux étapes en Belgique. Donc moi, ce que j'aurais voulu faire un jour...
C'est la question que je vais vous poser. Pourquoi ce n'est pas à Morlaix
Parce que, encore une fois, n'oubliez pas ce que je vous ai dit avant. On vit dans un monde dogmatique. Aujourd'hui, j'ai déposé 3 dossiers dans France 2030. On veut réindustrialiser la France. Et donc aujourd'hui, nous, on est prêts à réindustrialiser la France. À chaque fois, il y a des blocages. Donc, on ne sait pas où ça vient. En fait, il y a des blocages, des gens qui disent non. Donc, continuez à faire votre produit à Tours et en Belgique et ça ira bien. Aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'on veut. On veut vraiment en fait, développer cette société et développer les process industriels sur le territoire de Morlaix. Après, je dis toujours qu'une société comme voulez, Marina, répond à la théorie de l'évolution de Darwin. Soit on s'adapte, soit on meurt. J'ai pas envie de mourir, donc on s'adapte.
ça se rapproche bien du portrait que nous venons de faire de vous, Franck Zal. L'industrialisation, pas un problème. Les levées de fonds, pas un problème. En fait, tous les feux sont au vert aujourd'hui.
Alors,
pour
aujourd'hui, c'est ça qui est un peu bizarre. C'est on demande pas d'argent.
Bon, c'est déjà pas mal.
C'est quand même incroyable. Donc aujourd'hui, quand il faut trouver de l'argent, je trouve de l'argent via des investisseurs. Donc je demande pas d'argent de l'État. Je demande juste une reconnaissance et un coup de pouce. Donc quand je demande en fait de la construction d'une usine pour réindustrialiser, je vais trouver l'argent, mais à un moment donné, on a besoin d'un label en fait d'être un peu sous le couvert en fait de l'État. En fait, aujourd'hui, tout va bien pour Emarina. Je demande pas d'argent en fait à l'État pour développer ma technologie.
Mais simplement peut-être d'avoir cette reconnaissance. Aujourd'hui, on parle de French Tech. Est-ce qu'aujourd'hui il y a une French Biotech qui existe ou pas?
Alors aujourd'hui, déjà vous êtes en Bretagne. Il y a une association que je dirige qui s'appelle Biotech Santé Bretagne qui gère en fait sous cette entité pas mal de biotechnologie dans différents domaines en fait en Bretagne. Il y a France Biotech aussi. Alors France Biotech, moi je l'appellerais plutôt Paris Biotech puisque en fait c'est beaucoup des sociétés parisiennes. Mais oui, il y a des entités qui abritent en fait ce type d'entreprise. Après, France Biotech, French Tech, tout ce que vous voulez de tech, ouais, c'est un peu du marketing aujourd'hui en fait.
Est-ce que c'est pas ce dont on a besoin aujourd'hui du marketing? On voit bien que des fois les leviers de la communication permettent de débloquer les leviers de l'administration parce qu'on se dit on peut pas aller à l'encontre de ça.
Alors vous avez raison, ça fait bien, ça fait beau, il y a un beau coq bleu, etc. Mais c'est pas le beau coq bleu qui fait avancer un produit. Donc c'est bien, on a un label, on est reconnu, etc., etc. Mais en fait, ce qui fait avancer les technologies, c'est les entrepreneurs sur le terrain. C'est le travail de ces entrepreneurs qui vont faire émerger ces solutions. C'est pas le coq bleu qui va faire émerger les solutions. C'est parce que derrière tout ça, il y a des gens qui se battent, qui travaillent pour faire évoluer et pour faire reconnaître leur technologie.
La next step pour Emarina, c'est quoi ?
La next step pour Emarina aujourd'hui, c'est les différents produits qu'on développe. Vous avez évoqué Emodelife, on a d'autres applications autour de la cicatrisation, des produits dentaires, la transfusion. On a des applications dans l'ophtalmo, on a des applications dans cosmétiques. Donc c'est développer ce pipe en fait, parce que Emarina, c'est une mine. En fait, c'est une mine. Maintenant, il faut la creuser, il faut découvrir tout ça, il faut tailler ses pierres.
Ce qui veut dire que pour chaque produit, il faut demander des autorisations, une normalisation, etc.
Alors, exactement. Etc. Donc, vous imaginez, en fait, quasiment 9 ans pour avoir une autorisation. Donc, moi, j'ai 58 ans. J'espérerais que ça s'accélère un petit peu, en fait, dans les prochains mois.
Franck Zal, on arrive sur un temps qui est celle de la pause musicale. Alors, vous nous avez fait des propositions, bien évidemment, de chants qui tournent autour de la mer. J'ai pas envie de dire que vous avez grandi à Morlaix et en Bretagne, mais en tout cas, vous êtes un Breton d'adoption depuis de très, très nombreuses années. Laquelle de ces 4 chansons vous toucherait le plus, celle que vous voudriez que nous écoutions?
Moi, je pense qu'on va prendre Tonnerre de Brest de Nolwenn Leroy, parce qu'en fait, on est à côté de Brest et c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement important pour moi. Donc, Tonnerre de Brest de Nolwenn Leroy.
Allez, c'est parti. Tonnerre de Brest de Nolwenn Leroy. Le roi, vous êtes sur RCF. On se retrouve tout de suite après pour évoquer le parcours de Franck Zal.
Est-ce que désormais tu me détestes d'avoir pu un jour quitter Brest, la rade de port, ce qu'il en reste, le vent dans l'avenue changerait. Je sais bien qu'on y était presque, on avait fini notre jeunesse. On aurait pu en dévorer les restes, même au beau milieu d'une averse. Thank you.
C'était Tonnerre de Brest, Nolwenn Leroy sur RCF, le choix de Franck Zal qu'on retrouve tout de suite pour évoquer son parcours. Il est notre invité du portrait d'entrepreneur de ce mois-ci. Vous êtes dans l'écho des solutions sur RCF.
L'écho des solutions, Patrick Longchamp.
Voilà, vous êtes bien sûr RCF et on ouvre votre parcours, Franck Zal. Alors, je rappelle que vous avez édité une biographie aux éditions Des Arènes qui raconte tout votre parcours, j'ai envie de dire de l'enfance jusqu'à quasiment aujourd'hui. Quand on lit votre ouvrage, Franck Zal, on a vraiment l'impression d'avoir une série à la Netflix. Je pense qu'un peu plus romancée et on a vraiment quelque chose qui tient bien la route. Pourquoi avoir voulu écrire cette autobiographie? Vous aviez un besoin de mettre par écrit votre vie. Il y avait un besoin, je vais me dire, un petit levier de communication pour aller à la rencontre d'investisseurs, aller dans des pays, pour pouvoir laisser quelque chose de votre parcours, parce qu'on sait très bien que quand on fait des conférences, on n'a pas toujours le temps de tout développer. Pourquoi cet ouvrage ?
Alors déjà, c'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur depuis longtemps. Mais j'avais, par manque de temps, je ne l'avais pas fait. D'ailleurs, vous avez vu qu'il y a deux co-auteurs qui l'ont fait avec moi, donc parce que j'avais besoin en fait de mettre ça par écrit. Et surtout, alors vous avez raison, c'est assez marrant parce qu'aujourd'hui, quand on donne un livre, on dit bah, c'est sérieux, il y a un livre. Alors qu'avant, c'était aussi sérieux, il n'y avait pas de livre. Mais en fait, ça donne de la crédibilité. Alors c'est un peu bizarre, mais c'est la réalité de ce que je vois sur le terrain. Et après, en fait, ce que je voulais mettre dans ce livre, c'est en fait aujourd'hui, quand on parle des marinas, vous l'avez évoqué, on a l'impression que c'est une autoroute. C'est facile, on trouve un verre et on fait un produit de transplantation. Vous avez vu toutes les embûches qu'il y a en fait sur le chemin. Et surtout, ce que je voulais montrer à travers ce livre, c'est que tout le monde peut y arriver. Mmh. Tout le monde peut y arriver. Il y a des tas d'innovations dans la nature. Et c'est pas parce qu'on a un cancre à l'école qu'on n'y arrivera pas à faire sa vie. J'étais un cancre à l'école, j'ai raté mon bac deux fois, j'ai raté ma première année de fac et je suis là devant vous. Et donc aujourd'hui, on est en fait, on veut une société de premier de la classe, mais ou de premier de cordée, comme disait notre président de la République. Mais aujourd'hui, on n'est pas obligé d'être premier de cordée pour réussir. Il faut avoir surtout l'envie, la patience et vraiment la persévérance.
Et puis, je dis souvent, alors vous êtes premier de cordée aujourd'hui, vous ne l'étiez pas au début, mais je crois qu'aussi, il y a des secondes places qui valent des premiers. Souvent, le très bon adjoint, le très bon compagnon, c'est peut-être d'ailleurs, et c'est certainement votre épouse pour vous, ce deuxième de cordée qui fait que la cordée tient aussi parce qu'il y a les autres qui sont derrière. Alors vous le disiez, vous avez plutôt grandi dans une famille modeste, hein, puisque pendant longtemps vous avez évolué dans 40 mètres carrés à 7, hein, donc deux parents et 5 frères et sœurs. Et quand on lit votre ouvrage, on se pose la question d'ailleurs un petit peu si c'est pas une revanche sur la vie aussi, cette niaque que vous avez quand on vit dans un si petit appartement où chacun doit prendre sa place.
C'est vrai, c'est en fait moi j'ai toujours trouvé en fait et je le raconte dans le bouquin que c'était pas mon monde en fait. C'est assez particulier ce que je vous dis parce que c'est vraiment intime, mais je me suis toujours dit que c'était pas mon chemin. Pourquoi j'étais là et c'était pas ça que je voulais faire. Et par contre, en fait, ce qui est intéressant, c'est que quand on vit dans cet environnement, ça vous donne une telle force de caractère pour avancer, pour évoluer. Vous voyez vos parents trimer pour avancer, pour nourrir leur famille, etc. Donc on vous montre qu'est-ce que c'est la valeur travail. Et je pense que c'est cette force familiale qui m'a donné en fait cette persévérance qui me caractérise aujourd'hui.
Parce que la famille n'est pas bretonne, on est bien d'accord.
Ma famille n'est pas bretonne en fait. Donc moi je suis issu d'une famille de l'immigration en fait. Donc ma maman est venue en France à la suite de la libération en fait de la Tunisie. Donc elle était tunisienne, elle est venue en France. Et puis mon papa était de la deuxième génération, mais mon grand-père est polonais. Donc ils sont venus, en fait, mon grand-père est arrivé en France parce qu'il y avait la Première Guerre mondiale, il fallait des gens dans les fermes, et donc il s'est retrouvé du jour au lendemain en Seine-et-Marne. Donc moi je suis issu de tout ce monde-là, je me suis souvent posé la question, j'étais quoi, tunisien, français, polonais, et puis finalement j'ai avancé sur ce chemin.
Breton. En fait, vous n'êtes pas français, vous n'êtes pas polonais, vous n'êtes pas tunisien, vous êtes devenu breton. Quels sont vos héros justement à l'époque? Parce que quand on est dans un si petit appartement, qu'on est 7 dedans, il y a un moment donné, il faut aussi savoir s'isoler. On part avec des ouvrages, avec des héros dans la tête. C'est qui vos héros quand vous êtes tout petit?
En fait, tout petit, alors c'était bien évidemment, alors quand j'ai pu lire, c'était en fait les livres de Jules Verne, parce qu'en fait, c'était en fait l'aventure, ce qui me permettait de sortir aussi de ce petit appartement. Et puis, je remercierai jamais assez mes parents d'avoir acheté une télé en noir et blanc quand c'était le moment d'aller voir le premier homme sur la Lune, le premier pas de l'homme sur la Lune.
En
69. Et en fait, à la même période, il y a eu en fait des émissions qui émergeaient. C'était les premières images du monde sous-marin. Et mon héros à moi, c'était le commandant Cousteau. Mmh. Et je me suis toujours dit, un jour, je ferai comme lui, j'irai naviguer sur les océans, aller au-delà de des murs de ce petit appartement, au-delà des murs de Paris intramuros, et d'aller naviguer sur les océans.
Et l'amour de la mer est né de l'image en noir et blanc des fonds marins ?
Exactement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, finalement, on vit dans un monde en fait, qui est fermé, mais en fait, il y a encore sur la Terre des mondes à découvrir. Et pour moi, c'était une aventure en tant que telle. Je me dis, on va sur la Lune voir ce qui se passe sur la Lune, mais on ne connaît même pas notre planète. Et puis finalement, avec un scaphandre autonome, on peut aller voir ce qui se passe sous l'océan. Oui. Et donc, ça m'a donné vraiment l'envie de suivre en fait, cette vocation de biologiste marin, d'océanographe, etc. Et c'est vrai que mon héros, c'était le commandant Cousteau.
Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, toute votre scolarité n'était qu'un grand sas de décompression pour arriver à la biologie marine. Alors, et il a fallu la subir parce que vous disiez, j'ai été un cancre à l'école parce que peut-être vous saviez déjà où vous vouliez aller et finalement
alors,
il fallait
oui
subir.
Non, c'est-à-dire que je ne sais pas dans quelle famille vous êtes né, on en a évoqué tout à l'heure en fait, mais en fait on reproduit finalement dans le milieu dans lequel on a été. Moi, personne chez moi avait les codes. Donc personne n'avait les codes. Quand on me parlait du bac, je ne savais même pas ce que c'était. Personne ne pouvait m'expliquer ce que c'était le bac et encore moins les études supérieures. Donc en fait, on reproduit, c'est beaucoup plus facile en fait, d'évoluer dans le système éducatif quand vous avez des parents médecins ou des parents scientifiques ou des parents qui ont fait quelque chose, généralement vous reproduisez à peu près la même chose. Mais moi, j'avais aucun repère. Donc j'ai dû découvrir dans le milieu de l'éducation nationale qu'est-ce qu'ils attendaient de moi.
Il y a des professeurs qui ont été marquants, on dit toujours, il y a un professeur d'histoire, un professeur de bio. Est-ce que un professeur de bio, par exemple, a été quelqu'un de marquant pour vous?
Alors évidemment, oui, c'était en fait, donc j'ai trouvé ma voie dans la biologie assez tôt, donc les maths ça me plaisait pas, le reste ça me plaisait pas, mais la bio ça me plaisait parce que je me disais que la bio c'était en fait notre monde intérieur, aller découvrir des traitements parce que notre monde en fait physiologique est extrêmement complexe. Et en fait ma prof, en fait donc je raconte ça dans le bouquin, ma prof de bio était extrêmement en fait intéressante, mais par contre un jour elle m'a foutu une sale note, excusez-moi, elle m'a mis une sale note et en fait j'ai compris, mais elle m'a aidé parce qu'en fait finalement c'était pas que j'avais tort en fait dans mes réponses, mais c'était que je répondais pas de la bonne façon. Et j'ai appris et ça m'a beaucoup aidé pour la suite, c'est que pour être bon à l'école il faut être un bon perroquet, répéter ce qu'on vous dit par cœur. Faut pas réfléchir, il faut répéter ce qu'on vous dit par cœur. Et une fois que je suis rentré dans le moule de donner ces informations qu'on me donnait dans les cours, bah, j'ai eu des bonnes notes en biologie parce que j'ai compris que un des codes de l'éducation nationale c'était d'être un bon perroquet.
C'est ça. Réfléchissez, mais réfléchissez plus tard, pas maintenant.
C'est ça.
C'est ce sera bien. Vous dites que vous êtes un ovni dans votre famille. Vous êtes vraiment un ovni ou les autres frères et sœurs, comment ont-ils évolué par rapport à cette famille ?
Totalement un ovni, en fait. Ouais. Donc, personne dans mes frères et sœurs n'ont fait d'études. Ils ont des emplois respectables aujourd'hui, mais jamais personne n'a fait des études. Et donc, c'est vrai que quand on passe de ce côté-là, on a une famille qui est dans ce cadre-là et qu'on passe en fait vers le monde en fait, de l'université, le monde des intellectuels, on coupe, en fait il y a une sorte de coupure. Et donc mes parents sont extrêmement fiers de ce que je fais, mais ils savent pas ce que je fais. Et en fait ils sont fiers parce que là ils vont m'entendre parler à la radio, ils m'ont vu dans les journaux, etc., etc. Mais c'est la fierté de l'image.
C'est ce que vous dites quand ils assistent à votre soutenance de thèse, ils sont très très fiers, ils comprennent peut-être pas ce que je vais raconter, mais en tout cas ils sont tellement fiers que leur fils soit reconnu pour ses travaux et que le travail, parce que je pense, et on peut l'évoquer, vous avez travaillé de manière acharnée comme vos parents ont travaillé de manière acharnée, et la notion de travail est peut-être la notion la plus importante et celle qui est finalement un langage universel pour la famille.
Alors c'est sûr, à mon sens en fait ce qu'ils m'ont donné comme éducation, c'est que le travail, donc en fait pour avancer, pour réussir, il faut travailler. On n'a rien sans rien en fait, donc il faut mouiller sa chemise, il faut avancer, il faut travailler et c'est comme ça qu'on réussit sa vie. Et donc aujourd'hui, et puis le travail acharné, c'est-à-dire que vous imaginez, mon père en fait a été chef de chantier, il partait toutes les semaines monter des chantiers à droite à gauche en France, et donc c'était ma maman qui nous élevait. Et donc j'avais en fait, en se disant oh mais pourquoi mon papa part, donc c'était tout simplement parce qu'il fallait qu'il nous nourrisse. Et donc sans ça on n'aurait pas pu vivre, et donc j'ai eu cette valeur travail très très tôt.
Et après vous êtes parti sur des bateaux.
Après, je suis parti sur des bateaux, et puis après, j'ai travaillé pendant mes études, etc., etc.
Oui, alors c'est ça. Vous avez travaillé pendant vos études, et alors, c'est le hasard. Vous frappez à la porte d'un labo, et c'est le labo de ce grand ethnologue, anthropologue, Claude Lévi-Strauss.
Voilà,
c'est extraordinaire parce que on parlait de série à la Netflix, mais enfin, vous entrez chez l'ethnologue le plus fabuleux au monde. Et je pense que pour l'instant, il n'a pas encore été totalement dépassé.
Non, non, c'est exact. En fait, ma maman gardait des enfants, en fait, pour aussi mettre un peu donc pour gagner en fait de l'argent. Et donc il y a un chercheur qui s'appelait Pierre Lamaison qui arrive à la maison, qui demande à maman si elle pouvait garder sa fille. Et maman lui dit, mon fils va à l'université, est-ce que vous pouvez pas l'aider, parce que nous on pourra pas l'aider. Et donc il me dit peut-être quelques jours après, j'avais un coup de téléphone pour rentrer au laboratoire d'anthropologie sociale. Au démarrage, j'étais un simple vacataire, je mettais le courrier dans les boîtes aux lettres, et puis au fur et à mesure je me rapproche du professeur Lévi-Strauss, et je rentre dans son antre en fait, où je le côtoie tous les jours, où je travaille sur un fichier énorme qu'il avait mis au point qui s'appelle le HRA file, et donc je me rapproche.
C'est quoi le HRA file? Alors juste pour les auditeurs,
Human Relation Area File, c'est en fait il avait mis en place une façon d'analyser les ethnies à travers le monde. Donc il y avait à peu près 1500 à 2000 ethnies qui étaient analysées selon des codes, la famille, le travail, la science, etc. Et en fait on pouvait croiser les informations entre des ethnies d'Amazonie, des ethnies africaines, et donc à partir de là on pouvait avoir comment les sociétés avançaient. Et je me suis mis à faire de l'anthropologie sociale, en fait, aux côtés de Claude Lévi-Strauss, et puis de Madame Héritier aussi, qui était aussi une grande anthropologue.
Françoise Héritier. Ils font partie des personnalités qui sont sur votre mur, dans votre bureau,
oui,
Claude Lévi-Strauss et Françoise Héritier.
Et puis j'ai toujours gardé dans ma bibliothèque le livre qui m'avait dédicacé, Triste Tropique, qui était un de ses ouvrages maîtres, en fait.
Ouais, ouais. Alors, ce temps des études, c'est le temps que vous commencez, il y a une autre grande rencontre, celle dont vous rêviez d'ailleurs depuis l'enfance, c'est celle avec le commandant Cousteau, et dont vous nous parliez d'ailleurs tout au début.
Alors
sur la photo qui n'existe pas.
C'est pour ça que vous me demandiez à quoi ça sert ce livre. Et ça sert à un moment donné à dire aux gens d'aller au bout de leurs rêves. C'est-à-dire que moi j'ai vu sur un panneau à un moment donné une conférence que devait faire le commandant Cousteau à l'Institut océanographique à Paris, rue Saint-Jacques, dans le 5e, et je me suis dit, si tu veux aller le voir, vas-y. Et donc je suis allé là, donc je me suis battu pour rentrer. Cet amphi est magnifique, qui était blindé en fait de personnes qui étaient même assises sur les marches, et moi je m'assois, je suis arrivé plusieurs heures avant pour m'asseoir dans cet amphi, et je vois rentrer dans cet amphi le commandant Cousteau.
Ouais.
Le commandant Cousteau qui arrive et qui commence à présenter son film sur, c'était le Danube, et puis à la fin de son topo, donc il répondait à des questions, et là il y avait une possibilité d'un moment d'échange avec lui. Je me lève, je suis un peu en lévitation, je me retrouve devant Dieu, qui est pour moi mon Dieu, le commandant Cousteau, et puis je lui dis, mais vraiment naïvement, commandant, comment on fait pour être commandant Cousteau? Donc là, il émet un petit sourire, et puis en fait, il me fait ma feuille de route, il me dit, jeune homme, vous êtes à Paris, dans le 5e, derrière, il y a une université qui s'appelle Pierre et Marie Curie, Jussieu, si vous êtes bon, vous ferez un DEA, peut-être une thèse, et puis peut-être que vous partirez en post-doc, et puis peut-être que vous naviguerez sur les océans, et puis peut-être que vous plongerez dans les abysses. Et tout ces peut-être, c'est devenu pour moi une réalité.
Ouais. Quand on lit votre ouvrage, vous embarquez, c'est rocambolesque, cette embarcation sur un bateau. Vous rentrez dans un labo, celui du professeur Tout-le-Monde, qui deviendra votre mentor, ami, à terme. Mais vous faites votre service militaire, donc impossible d'embarquer.
Alors c'est ça, oui. Donc je suis obligé. Donc il y avait encore le service militaire à l'époque, et donc j'avais repoussé toutes les dates, etc. Et là je devais partir en fait pour mon service militaire. Donc je pars pour mon service militaire, puis je m'ennuie un peu au service militaire. Donc je voulais faire continuer mes études. Puis j'avais en fait des cours du soir, donc etc. Puis je vois en fait dans les couloirs de Jussieu que le professeur Tout-le-Monde cherchait une personne pour embarquer sur une mission océanographique au large des Galapagos. Mon rêve. Et donc je me dis, il faut que j'y aille. Donc je le harcèle. Puis là il apprend que je suis au service militaire. Non, c'est pas possible, on va sur un bateau qui appartient à la Navy américaine, donc ils ne laisseront pas
un militaire
français embarquer sur un bateau militaire américain. Et puis il me dit, écoutez, si vous arrivez à convaincre votre hiérarchie, pourquoi pas? Et alors là, je fais le pied de grue devant le laboratoire du colonel, et je lui dis, colonel, voilà, c'est vraiment, vraiment ce que j'ai envie de faire. Et puis j'ai un homme devant moi qui ne comprenait pas pourquoi un simple bidasse venait le voir. Et puis là, il y a un deal qui se met en place en disant, écoutez, je vous laisse partir si vous me ramenez du sable du fond du Pacifique, je suis collectionneur de sable, et si vous m'amenez ça, je vous laisse partir. Et je vous expliquerai même comment rester plus longtemps sur le bateau. Et c'est comme ça que je suis parti faire ma première...
Et là, c'est à la fois à la rencontre avec un ami, un mentor, avec son épouse...
Oui, Claude joint tout le monde.
Qui devait se joindre à vous. vous, mais qui ne se joindra pas. Ouais. Et la quatrième rencontre, c'est celle avec les Verts marins, parce que c'est à ce moment-là que finalement que tout commence. C'est pendant le service militaire sur ce bateau.
C'est exactement
les
Verts
marins seront votre vie.
Les Verts marins sont ma vie. Je comprends l'importance de ce phylum qu'on appelle les annélides. Vous savez, les annélides, c'est des vers. En fait, c'est des organismes vivants qui ont plus de 450 millions d'années. Et je comprends, en fait, en travaillant sur cette thématique, que c'est les premiers organismes ayant quitté l'océan. Et donc, ils sont entre le monde marin et le monde terrestre. Et je me prends d'amour, en fait, pour les annélides marines que j'étudie.
On va redire ça aux nos auditeurs. Hein, les annélides marines, les arnicoles que vous étudiez, et que, plus que vous étudiez, que vous exploitez. Je suis même étonné que les lits de protection des animaux ne vous soient pas encore tombés dessus.
Ouais.
Mais enfin, on ne va pas le souffler,
on ne va pas le souffler trop fort.
Mais ce sont ces vers qu'on retrouve sur les plages qui font ces espèces de petits sillons.
C'est ça. En fait, ce sont des vers, en fait, donc, qu'on appelle des annélides polychètes d'un point de vue scientifique. Le nom scientifique, c'est Arenicola marina. En Bretagne, on l'appelle le busugue. Et en fait, ce ver, en fait, on le voit sur les plages. Alors, on ne voit pas le ver, mais on voit les turricules ou les tortillons de sable, tout simplement parce que ce ver est psamivore. Donc, il mange du sable. Alors, il ne se nourrit pas de grains de silice, hein, mais il mange la matière organique qui est autour de ces grains de silice. Et donc, il relarge ce sable propre. Et donc, je m'intéresse à ce ver pour essayer de comprendre comment il est capable de respirer entre la marée haute et la marée basse. Je me dis, moi, je ne sais pas respirer sous l'eau. Comment lui, il fait pour respirer sous l'eau? Donc, c'est que de la science au démarrage. C'est juste d'une interrogation d'un scientifique qui essaie de comprendre son environnement.
Et le commandant Cousteau vous dit autre chose, hein, parce que, outre son parcours, il y a aussi le parcours de chercheur. Il est chercheur au CNRS. Et pour vous, c'est le Graal, le CNRS. Et en fait, ce Graal, vous allez l'obtenir. Mais en fait, finalement, vous allez tomber. Ça va vous permettre de financer vos recherches, mais finalement, au fur et à mesure du temps, vous tombez de carib en scie là avec le CNRS.
Alors oui, c'est ça, parce qu'en fait, je pense que je suis toujours quelqu'un de super naïf, et en fait, je pense que pour moi, la recherche doit servir la société. C'est bien de faire avancer la connaissance, mais quand on a trouvé quelque chose, c'est bien d'en faire profiter aussi la société. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est la société qui m'a payé. Donc, quand j'étais au CNRS, c'est les impôts des Français qui m'ont payé. Donc, à un moment donné, quand j'ai trouvé quelque chose, je voulais en fait l'amener vers les patients.
Et pourquoi alors? Pourquoi est-ce que ça résonne pas au CNRS? On a ce côté en France de dire la recherche d'un côté, l'exploitation business
c'est exactement
de l'autre,
ça. C'est-à-dire que ces centres de recherche, notamment le CNRS, c'est un champ de recherche fondamental. Donc il n'est pas là pour faire de la transversalité, d'amener des solutions de la recherche fondamentale vers le marché. Et puis il faut savoir qu'en France, il y a une dichotomie entre le monde privé et le monde public. Moi, je dis toujours qu'il y a le mur de Berlin entre ces deux mondes et on se côtoie pas forcément. Parce que d'un côté, il y a le chercheur en blouse blanche, c'est la recherche fondamentale qui est pure, qui est blanche. Et de l'autre côté, du mur de Berlin, c'est l'économie, donc c'est l'entreprise. Et en fait, il y a une absence de communication entre le monde de l'entreprise et le monde de la recherche fondamentale.
Et pourtant, l'État français, là, dans ces dernières années, essaye de faire tomber ces murs. Même si on a évoqué au début de l'émission toute cette problématique qui sont liées aux normes, on essaye de faire tomber ces murs. On n'a jamais vu autant de biotech naître aujourd'hui sur le territoire
français.
Complètement
d'accord avec vous. On a compris qu'il fallait casser ce mur de Berlin et en fait que ces deux mondes communiquent. Alors ça se fait, à mon goût pas assez vite, mais ça se fait. Et donc aujourd'hui, il y a de plus en plus de sociétés qui sont montées à partir de la recherche fondamentale pour faire des sociétés de type biotech. Mais vous savez, c'est long. C'est long. Donc pour faire percoler ça dans la mentalité des gens, c'est extrêmement long. Et pourquoi? Tout simplement parce que quand vous êtes chercheur au CNRS, vous êtes fonctionnaire. Donc fonctionnaire dit emploi à vie. Donc emploi à vie protégé. Donc ça veut dire que, et vous imaginez bien, vous passez de l'autre côté du mur de Berlin.
Vous dites d'ailleurs dans votre ouvrage, ça m'a beaucoup fait sourire, je suis aussi fils de chercheur et on a vécu ça. Cette organisation a été construite après-guerre avec des ministres du général de Gaulle qui sont des ministres communistes qu'il a mis à la tête de la recherche et de l'éducation nationale, et donc ils construisent quelque chose à la fois de formidable parce que l'État va financer la recherche, mais finalement sans pédagogie du résultat, c'est-à-dire que vous pouvez passer des années à chercher un truc ou à ne pas chercher, vous serez rémunéré de la même
Exactement.
Manière.
Exactement. Donc il n'y a pas de prime au mérite, il n'y a pas de prime à la découverte, etc. Tout le monde a le même salaire. Quand vous rentrez au CNRS, vous avez une grille de salaire, vous savez combien vous allez gagner à votre retraite. Et donc à un moment donné, il y a eu, moi j'étais encore au CNRS, il y a eu une élection présidentielle, c'était Sarkozy qui voulait mettre des primes au mérite. Tous les chercheurs ont renvoyé leurs primes en disant nous on veut des postes, on veut pas de primes. Donc en fait c'est un état d'esprit complètement différent du monde économique.
Et vous êtes allé aux États-Unis, l'état d'esprit est totalement différent. Ça n'a pas été forcément le plus merveilleux, la plus merveilleuse des expériences, mais vous voyez quand même une différence. Est-ce qu'on peut
accélérer un peu plus facilement qu'en France, ou il y a d'autres freins qui font que c'est plus compliqué?
En fait, l'état d'esprit est complètement différent. Vous savez, les États-Unis, c'est pas un pays vieux par rapport en fait à un pays comme la France. Et donc en fait, c'est encore dans leur tête, c'est encore des pionniers. Donc il y a pas mal de choses encore à faire. Donc ils veulent avancer, donc etc. Nous, on est dans un pays un peu plus ancien, plus vieux, et donc on n'a pas du tout le même état d'esprit. Après, ce que j'ai bien aimé en fait aux États-Unis, c'est tout est possible. C'est allez-y, travaillez, vous allez y arriver, etc. Après, ce que j'ai moins aimé, c'est l'aspect social, où c'est marche ou crève, t'es riche, tu peux t'en sortir, t'es pas riche, tu vas mourir. Donc, bon, ça n'existe pas chez nous.
Est-ce que vous vous considérez encore comme chercheur, comme entrepreneur-chercheur, à quel niveau vous en êtes aujourd'hui ?
Dans ma tête, je suis toujours un chercheur et je suis un chercheur-entrepreneur. Et donc, ce que je voudrais démontrer aussi, c'est que, en fait, j'ai subi pas mal de choses. Quand j'ai créé Marina, on m'a dit qu'un chercheur pouvait pas monter une boîte. Il fallait un MBA, en fait, pour monter une boîte. J'avais pas de MBA, j'avais juste une thèse de recherche. Donc, j'y suis arrivé. Donc, en étant chercheur, dans ma tête, je suis toujours chercheur. Mmh. Par contre, j'ai bien compris
C'est-à-dire que vous revêtez encore la blouse blanche aujourd'hui?
Alors, ça m'arrive. Et surtout, alors, je manage plutôt la recherche, puisqu'en fait, voilà, je fais beaucoup de choses. Donc, j'ai beaucoup de gens qui travaillent, en fait, des jeunes qui travaillent comme j'ai travaillé dans des laboratoires. Donc, je les supervise. Je leur donne des axes de développement, des axes de recherche, etc. Honnêtement, je ne vais plus à la paillasse avec des pipettes. J'ai plus le temps de faire ça. Mais j'amène en fait ma vision de la recherche en fait au sein de l'entreprise.
Mmh. Et Marina, donc aujourd'hui, c'est une société qui se porte bien sur le plan de la structuration. On est presque à la limite de la licorne. Vous n'avez pas encore le qualificatif de licorne, mais la valorisation, elle doit être suffisamment proche.
Alors la valorisation, quand on fait la valorisation par des techniques bancaires ou par des techniques de valorisation, etc. Donc elle approche le milliard. Donc en fait, Emarina est une licorne. Donc, mais pour moi, ça veut rien dire. Donc oui, ça a de la valeur, c'est une licorne, on peut la faire introduire en bourse, etc. Mais pour moi, c'est la réalité du terrain. C'est qu'est-ce que tu fais pour l'économie réelle. Pour moi, le type de licorne, etc., c'est de la spéculation boursière. Et donc pour moi, c'est du concret, c'est du réel, c'est combien d'unités tu vends.
Qu'est-ce que vous avez appris en devenant entrepreneur? En tant que chercheur, vous avez appris la rigueur, vous avez appris la curiosité, la réflexion sur les sujets. Qu'est-ce qu'on apprend quand on devient entrepreneur, quand on passe de chercheur à entrepreneur?
Ben, en fait, on apprend aussi pas mal de choses autour de la qualité, de la rigueur, etc. C'est-à-dire que quand vous êtes dans un laboratoire, vous plantez une manip, vous la recommencez et puis vous allez la réussir. Aujourd'hui, nous, on ne peut plus faire ça. Donc, quand on fait de la recherche, tout est tracé, tout est contrôlé, etc. etc. Dans notre domaine d'activité, on travaille selon des normes, etc. On est audité, on vient vérifier ce qu'on fait, ce qui n'existe pas dans les laboratoires de recherche publique. Donc cette partie-là. Et puis j'ai appris aussi en fait que je me suis rapproché du monde hospitalier, des patients. Et là, quand on voit ce qu'on fait et qu'on voit une vie sauvée devant ses yeux, on n'est plus dans l'abstrait, on n'est plus dans le peut-être. On est dans une vie sauvée. On a rendu un patient à sa famille. Et là, c'est vraiment l'aboutissement de toutes ces galères de travaux, de recherche, etc. Bah, on se dit, voilà, j'en ai pris plein la figure, mais voilà pourquoi.
Et des déceptions, on en a beaucoup. Alors on pourrait parler évidemment de celle du CNRS. Vous avez créé des jalousies au sein, il y a eu de la réorganisation, il y a des jalousies qui sont nées, à tel point qu'à un moment donné vous êtes obligé de lâcher le Graal et finalement de dire bon allez, basta, j'essaye de récupérer les premiers brevets que j'ai déposés et je crée la structure, c'est ça?
C'est exactement, et puis je pense que ça a été aussi une aide, parce qu'en fait vous savez quand il y a des façons de partir du CNRS, de se mettre en disponibilité, donc ça veut dire que bon, on peut y retourner. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit non, il faut que je coupe le lien, comme ça, de toute façon, s'il y a un coup de vent, j'y retourne pas, parce que de toute façon, j'ai plus de poste. Et donc, j'ai décidé de démissionner.
Il faut encore encourager les jeunes à se lancer dans le domaine de la recherche, partir au CNRS. On a besoin encore de chercheurs.
Oui, bien sûr. Il faut chercher, il faut trouver, il faut surtout trouver, chercher et trouver. Mais voilà, et surtout, il faut pas qu'il y ait de dichotomie entre la recherche fondamentale et la recherche privée. Je pense qu'il faut favoriser la transversalité. Vous savez, l'innovation ne s'est jamais fait avec des spécialistes, parce que les spécialistes sont bornés en fait dans leur domaine de connaissances, mais ils vont pas chercher à côté. En fait, l'innovation, c'est toujours les interfaces. Et moi, ce qui m'a toujours plu, c'est l'interface. Vous parlez en fait de chercheurs, de médecins, etc. Ben moi, ce qui m'a permis d'avancer, c'est vraiment discuter avec des mondes qui n'étaient pas les miens.
Je vous avais demandé de venir avec un livre, vous en avez un sur le côté, c'est quasiment quelqu'un qui vous est proche sur quelqu'un qui a été obligé de manger des amanites phalloïdes pour prouver que son médicament fonctionnait sur le foie.
Alors c'est ça, donc en fait c'est dû, le titre c'est « J'ai dû manger des amanites mortelles, 15 ans de lutte pour faire reconnaître un traitement efficace ». Il a été rédigé il y a quelques années par le docteur Pierre Bastien, et donc je suis vraiment content de le mettre en avant parce qu'en fait sa petite fille travaille avec nous en fait chez Marina, et c'est sa maman qui m'a donné ce livre-là que je ne connaissais pas. Et quand je lis cette histoire, c'est exactement ce que je subis. Exactement le même parcours.
Et le médicament n'est toujours pas sur le marché. Hein. Et alors, ça ne vous rassure pas,
non,
peut-être.
Non, donc il est toujours pas sur le marché. Il a sauvé pas mal de gens. Il a dû manger des champignons pour montrer que ça fonctionnait. Mais bon, moi, j'espère d'ici là d'éviter de manger des champignons pour pouvoir avancer. Ouais.
On va parler un petit peu comment on équilibre la vie pro, la vie perso. On a très rapidement évoqué votre épouse. Même dans l'ouvrage, elle est évoquée, mais on sent qu'elle a une place très, très particulière. Alors, vous avez de la chance, vous avez épousé une chercheure, vous avez épousé une scientifique aussi, donc ça c'est déjà un bon point quand on est chercheur. Mais quelle place elle prend dans toute cette aventure ?
Une place centrale, je veux dire. En fait, on fait pas ça si on n'a pas un socle solide. Ou créer une entreprise quand on est marié, c'est très très difficile. Donc il y a beaucoup d'entrepreneurs qui divorcent. Il y a beaucoup parce que en fait c'est pas quelque chose familial, parce que c'est tellement dur. En fait, je vous ai dit, je viens de vous évoquer, j'étais en Inde, j'ai fait des journées de 22 heures. Donc, en fait, c'est très, très dur. Et donc, en fait, c'est sans elle, j'y serais jamais arrivé.
Et
donc,
c'est quoi vos lieux de ressourcement ? Comment vous arrivez à un moment donné à poser les valises ? Est-ce que c'est un endroit ? Est-ce que c'est une lecture ? Est-ce que c'est un feu de cheminée ? Qu'est-ce qui vous fait avoir des lieux de rupture par rapport au quotidien ?
C'est du travail manuel. En fait, c'est le bricolage, c'est d'être sur ma tondeuse en train de tondre mon gazon en me retournant en disant c'est vachement propre. Donc, et ça me permet, en fait, j'ai appris récemment que c'était un peu de la méditation, c'est-à-dire de penser à autre chose plutôt que de penser au quotidien de la société et Marina. Mmh. Donc ça me ressource. Et puis bien évidemment ma famille qui est mon socle en fait de ressources, etc. J'ai quand même un regret parce que j'ai vu que c'était une question qui était posée.
C'est
de pas avoir passé beaucoup de temps avec ma famille. Ouais. J'ai eu il y a quelques temps en fait une discussion avec mes enfants et donc ils me disent oui on a tout eu papa mais on t'a pas eu. Mmh. Et donc en fait, aujourd'hui, c'est vraiment un regret. Donc, je les ai vus grandir. C'est plutôt mon épouse qui s'est beaucoup occupée.
Est-ce que votre prochain livre de chevet, ce sera L'art d'être grand-père de Victor Hugo, Franck
Zahle ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas, oui.
Je pose toujours la question de l'engagement. On a le temps de s'engager dans autre chose parce qu'on le voit que c'est une vocation. On voit que votre famille a un petit peu pâti de votre présence. On a le temps aussi de s'engager sur d'autres sujets. Vous vous considérez comme une personne engagée au-delà de votre travail de scientifique et de chercheur et d'entrepreneur ?
Moi, j'ai l'impression, alors je fais pas de l'apologie de Franck Zahle, mais en fait, je suis vraiment engagé en fait pour la société. Je pense que, vous savez, vous naissez et vous mourrez. En fait, ça, c'est les deux points sur lesquels on est sûr de passer. Par contre, entre la naissance et la mort, vous avez un chemin à faire. Et ce chemin, en fait, peut vous amener en fait dans différents destins. Et je dis toujours qu'on choisit pas son destin, mais on choisit les chemins qui y mènent. Moi, je crois que mon destin est fait pour amener en fait des choses. Pour soigner les gens. Et donc, en fait, ça, c'est ma vie. Et donc, mon engagement, en fait, dans cette société, c'est d'amener une technologie qui, demain, sauvera des millions de vies. Et donc, je pense que c'est mon chemin. J'aurais pu, en fait, faire comme mes frères, en fait, d'autres métiers. J'aurais pu faire comme mes parents, d'autres métiers. Mais je sens, au fond de moi, que c'est mon chemin. Mmh. Et ce que je vais vous dire, c'est un peu particulier. C'est un peu, en fait, un mélange, en fait, du réel et de spirituel. Je me suis toujours vu, en fait, sur mon chemin, avoir des pierres, en fait, qui sont là pour me dire va à droite, va à gauche, va tout droit. Et en fait, j'ai fait toujours appel à mon instinct.
Mmh. Une sorte de chamanisme, on
je sais
dire,
pas comment vous dire ça. En fait, j'ai l'impression d'avoir de sentir les choses et de savoir par où je dois passer.
Une forte intuition, en fait.
Une forte
si
intuition.
Vous étiez poussé par.
C'est ça. Poussé. Alors, c'est pas scientifique. Hein. Je suis scientifique, ouais. Je suis rationnel. Mais souvent, j'ai senti qu'il y avait des rencontres qui étaient complètement inconcevables et qui pourtant se sont faites.
Bah, quand on commence sa vie étudiantine en travaillant dans le labo de Claude Lévi-Strauss, en effet. les rencontres peuvent paraître improbables. Et justement, et Dieu dans tout ça, Franck Zahl, quelle place il prend? Est-ce qu'il a une place dans la vie de Franck Zahl, au-delà de ce chemin spirituel qui semble qu'il dévoile?
Oui, bien sûr, en fait, il a une place. En fait, moi, j'ai une foi énorme en la vie, une foi énorme dans le destin, etc. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a, aujourd'hui, c'est un peu tabou de le dire. Moi, c'est pas tabou, en fait, c'est vraiment ma force intérieure. Et j'adore me ressourcer, en fait, dans une église ou dans un endroit de culte. Vous savez, là, je suis revenu, en fait, je vous l'ai dit plusieurs fois, mais je suis revenu d'Inde et de Thaïlande. C'est un monde spirituel, en fait. Alors, ils n'ont pas les mêmes dieux que nous. C'est du bouddhisme, de l'hindouisme, etc. Mais tout est question de spiritualité. Et je trouve une force intérieure, en fait, à ces personnes. Et je pense avoir cette forme aussi de foi intérieure qui me donne une force qui est multiplié, démultiplié. Et donc, même si aujourd'hui, en fait, on est dans un pays laïque, il ne faut pas parler de religion, etc. etc.
Sur RCF, c'est ça qui est fort.
Et donc, moi, je ne suis pas aligné avec ça aujourd'hui. Je pense que chacun, en fait, a son moteur. Moi, j'ai une foi énorme qui me fait avancer, qui m'a remis sur les rails, qui m'a permis d'avancer, qui m'a permis de trouver, etc. Et donc, la spiritualité est extrêmement importante pour moi, même si je suis un pur rationnel. Et puis,
c'est ça, vous êtes un biologiste, hein, c'est compliqué.
Si vous interrogiez des personnes, en fait, autour de moi, ils vous demandaient, mais Franck, il veut toujours une rationalité à tout, il se pose toujours la question pourquoi.
Et vous savez, un jour, j'ai fait une émission avec un biologiste et un astrophysicien. Le rapport à Dieu et à l'infini est complètement différent.
Mais bien sûr.
L'un est très rationnel et l'autre laisse encore une place un peu à l'infini et au mystère.
C'est
sûr qu'un dialogue entre Hubert Reeves et vous aurait été absolument passionnant.
Je pense aussi, oui.
Mais peut-être que les finalités n'auraient pas été les mêmes. Franck Zahl, on va aller vers la fin de cet échange. Trop court, malheureusement, j'aurais aimé qu'il fût plus long. Votre invité des 7 minutes pour changer le monde, c'est Nolwenn Fèvre, qui a créé l'association qui s'appelle Les Petits Doudous. Pourquoi Nolwenn particulièrement?
Parce que je pense aussi que c'est une personne qui a beaucoup de persévérance, une foi énorme. En fait, elle a créé cette association parce qu'elle voyait les enfants souffrir, notamment dans les hôpitaux où ils étaient parfois laissés seuls, sans parents le soir, etc. Elle a eu l'idée, en fait, de leur donner, en fait, du baume au cœur au démarrage par des petits ours, en fait, qu'elle donnait, en fait, à ses enfants. Et puis ça s'est, en fait, multiplié par d'autres actions. Et je pense que c'est une personne extrêmement engagée au service d'autrui. Et je pense, en fait, on a un peu cette complémentarité, c'est que je pense être engagé aussi au service d'autrui, et je pense qu'il manque de personnes comme ça, en fait, dans la société.
Et Marina, ce sera peut-être ma dernière question, et puis on retrouve tout de suite Nolwenn Fèvre. Un impact social des Marina, justement, une fondation, de quoi aider justement des associations de ce type-là aussi?
Alors ça serait vraiment mon but, en fait. Vous savez, moi, j'ai jamais fait tout ça pour être le plus riche du cimetière. Donc à un moment donné, c'est pour partager tout ça. Et donc j'adorerais, en fait, si un jour, en fait, Marina est valorisée comme une licorne, montrer une association, et puis surtout aider, en fait, les jeunes qui ne sont pas nés forcément dans une famille où il y avait les guides et où il y avait les codes, etc., et aider, en fait, ces jeunes à trouver leur voie. Et donc j'adorerais monter cette fondation et puis mettre les moyens qu'il faut pour, en fait, aider toute cette jeunesse qui, des fois, en fait, sont en galère, perte de repères, etc., alors qu'ils ont toutes les compétences internes pour pouvoir avancer.
Absolument. On retrouve tout de suite Nolwenn Fèvre pour nos 7 minutes pour changer le monde.
7 minutes pour changer le monde, l'écho des solutions.
Voilà, et je suis donc avec l'invité de Franck Zahl. Elle nous a rejoint à l'instant. Il s'agit de Nolwenn Fèvre, fondatrice des Petits Doudous. Bonjour Nolwenn.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. On va évoquer les Petits Doudous, bien sûr, mais on va aussi évoquer Franck Zahl. Vous êtes son invité. Franck Zahl, au vu de son parcours, de qui il est, c'est qui pour vous Franck Zahl, si vous deviez le définir en quelques mots? Il est là, à côté.
Ah bah c'est une belle personne, voilà, c'est une belle personne, et puis qui symbolise aussi mon environnement, mon enfance, la Bretagne, et partir de ces vers de vase à Rénicole que j'ai croisé toute petite, et de faire le projet qu'il mène aujourd'hui avec la volonté, l'ambition, l'engagement. Je trouve que c'est exemplaire et c'est à chaque fois une personne très importante pour moi, et de le croiser, c'est toujours du bonheur, et on est toujours très heureux de se retrouver. Il y a quelque chose de fort.
Alors on va évoquer les petits doudous. Racontez-nous un peu cette histoire des petits doudous qui sont là pour venir apporter un peu de joie, de bonheur dans les hôpitaux auprès des jeunes enfants, c'est ça?
Exactement. Donc moi, je suis infirmière anesthésiste et un jour, j'en ai eu vraiment ras-le-bol d'entendre les enfants pleurer au bloc opératoire. Et ça semblait une évidence et qu'on pouvait pas faire autrement. Et moi, simplement, j'ai dit soit ça s'arrête, soit je m'en vais. Je pouvais plus du tout supporter. Et je me suis rappelée d'un petit garçon qui avait oublié son doudou et qui pleurait à cause de ça. Et pas parce qu'il c'était pas la peur ni l'angoisse, c'était vraiment le problème de pas avoir son doudou avec lui. Et avant de jeter l'éponge, j'ai envoyé un mail comme une bouteille à la mer à une entreprise qui s'appelle Moulin Rôti, qui fabrique des doudous, aidez-moi, on n'en a pas. Et ça a été le début de la création de l'association.
Alors, vous avez créé cette association. Aujourd'hui, comment elle opère dans les hôpitaux? C'est juste de la fabrication de doudous qu'on distribue autour de soi ou ça va un petit peu plus loin?
Ouais, ça va un petit peu plus loin, effectivement. Bah, aujourd'hui, ce sont des soignants qui s'engagent dans les hôpitaux, qui créent une association Petit Doudou. Donc, on a un vrai réseau de soignants engagés avec qui on construit des choses. Donc, ça va évidemment de leur offrir un doudou à la fin de l'intervention, mais c'est surtout accompagner, dédramatiser le parcours opératoire. Et on commence dès la consultation d'anesthésie, en donnant des gommettes, petits doudous aux enfants pour décorer le masque qui est nécessaire pour l'anesthésie. Après, on a créé un jeu numérique qui s'appelle Le héros, c'est toi, où l'enfant est le héros de ce jeu en lien avec le parcours opératoire jusque s'endormir au bloc opératoire. Et il a des actions à faire, les parents sont impliqués aussi, le personnel. Donc ça, ça a été un outil numérique très important pour nous qui, après des études, a montré qu'il était plus efficace que des médicaments. Et aujourd'hui, ce jeu est une prescription médicale, donc on ne joue plus du tout, mais on fait des choses aussi très sérieuses, évidemment, à l'hôpital. Et la particularité qu'on a en plus, et qui est un volet très très important de notre réseau, c'est l'engagement éco-responsable, puisqu'on recycle des déchets hospitaliers, des métaux qui étaient jetés dans les poubelles des hôpitaux pour financer les petits doudous. Donc aujourd'hui, il y a 137 associations un peu partout en France et outre-mer également, une association en Belgique et une au Canada. Et puis, on est 1800 soignants engagés dans les bureaux de ces associations. On arrive à accompagner 150 000 enfants par an. Et on a recyclé 300 tonnes de déchets l'année dernière dans notre réseau, mais il y a encore beaucoup de choses à faire.
Aujourd'hui, quels sont les besoins sur le territoire? Est-ce que finalement la généralisation des petits doudous serait une solution anti-médicamenteuse pour accompagner justement tous les enfants hospitalisés?
Oui, bien sûr, c'est indispensable d'avoir cet accompagnement ludique où le parcours opératoire devient une aventure et pas un traumatisme. Ça diminue la durée de séjour, ça diminue les médicaments pris pour l'anxiété. On sait que l'anxiété majore la douleur post-opératoire, donc il y a toute cette valorisation du parcours qui est très importante et effectivement les petits doudous permettent ça, entre autres, hein, il y a beaucoup d'associations, on en a besoin, mais c'est vrai qu'il faut valoriser ses soignants, faire connaître notre modèle.
Encore faut-il pouvoir être bien accueilli dans les structures. Comment êtes-vous accueilli par les soignants et par les autorités administratives?
Alors, c'est souvent des soignants qui se mobilisent pour créer une association, puisque voilà, tous les membres des associations sont des soignants, hein, c'est vraiment des associations dans les établissements. Et après, ben, plus on a de visibilité, plus on parle de petits doudous, plus ils sont soutenus aussi par l'administration, parce qu'évidemment, c'est un modèle différent qu'on a créé, hein. Des soignants qui créent une association dans leur établissement, ça n'existe pas. Ça n'existait pas avant nous et ça n'existe toujours pas. Donc, c'est de faire un peu bouger les lignes et d'innover et d'apporter un peu de changement pour le bénéfice de tous. Ça améliore aussi la qualité de vie des soignants et ça, c'est très, très important aussi aujourd'hui pour nous.
Il faudrait que les petits doudous soient mis à hauteur d'accord interbranche comme les syndicats, avoir des délégations de temps de travail pour s'occuper des enfants. Merci beaucoup, Nolwenn Fèvre, d'avoir été notre invité de ces 7 minutes pour changer le monde, d'avoir été l'invité de Franck Zahl. On fait une micro-pause et on retrouve tout de suite Franck pour conclure cette émission. Merci Nolwenn, bonne chance aux petits doudous. On redonne hein, lespetitsdoudous.org, au pluriel hein, les petits doudous. Et vous trouverez des boutiques pour aider l'association, peut-être acheter des vêtements ou peut-être tout simplement vous engager ou créer une association. À bientôt, merci beaucoup Nolwenn, au revoir.
RCF. L'écho des solutions.
Voilà, on arrive au terme de cette émission. Franck Zahl, au début de cette émission, je vous posais une question. Dans quel état d'esprit êtes-vous? Comment êtes-vous à la fin de cet échange?
Heureux. En fait, vraiment enthousiaste, heureux. J'ai passé un extrêmement bon moment avec vous. Et si, en fait, ce que j'ai dit pouvait aider, en fait, des personnes qui sont, en fait, qui se cherchent, ben, on aura fait quelque chose de cette émission.
Allez jusqu'au bout de vos rêves pourrait être le sous-titre de cette émission et de la vie de Franck Zahl. Je rappelle que vous avez édité aux éditions Des Arènes semaine un très beau livre qui s'appelle Un trésor sous le sable, qui raconte tout votre parcours, et en espérant qu'il puisse orienter des jeunes et des moins jeunes vers d'autres parcours en s'appuyant sur votre détermination. Merci beaucoup Franck Zal. Nous on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous toutes et tous très très bien, et si vous êtes à Paris, n'oubliez pas que très prochainement a lieu le grand salon sur le biomimétisme. On n'a pas du tout parlé de biomimétisme, mais Dieu sait combien ça me passionne et ça vous passionne, puisque c'est finalement le fruit des marinas. À très bientôt, bonne écoute des programmes de RCF. Au revoir.